Jean 21, on arrive au dernier chapitre de Jean, ça fait un an et demi qu'on est dessus, à peu près. Un peu plus, non, un peu moins, je ne sais plus. Et donc on clôture aujourd'hui ce bel évangile. Je suis content de vous voir ce matin. J'ai failli être vraiment à la bourre, j'avais perdu mon bip pour ouvrir le portail. Alors, soit je venais à pied, mais je ne serais pas encore arrivé. Et en tout cas, je suis vraiment content d'être là. En tout cas, j'ai presque le sentiment que avec cet évangile, on est passé à côté de beaucoup de choses. J'aurais presque envie de reprendre tout depuis le début, mais on va passer à autre chose. En tout cas, pas tout à fait autre chose, parce qu'on a décidé d'étudier, donc le dimanche matin, dans l'enseignement systématique, une à deux fois par mois, les épîtres de Pierre. Et j'ai réalisé que ça tombait finalement à pic dans la suite du chapitre 21 de Jean. Vous allez voir, je trouve que c'est bien parce que ça parle justement de Pierre. Et en fait, le chapitre 21, c'est le huitième signe de l'évangile et la réhabilitation de Pierre. Pierre a eu besoin d'être réhabilité. Donc, aujourd'hui, on est à la, on va dire, deuxième pêche miraculeuse. On va lire des versets 1 à 14 du chapitre 21 de Jean. Après cela, Jésus se manifesta encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Voici comment il se manifesta. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, le fils de Zébédée, et deux autres de ses disciples étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit « Je vais pêcher ». Ils lui dirent « Nous allons nous aussi avec toi ». Ils sortirent et montèrent dans la barque. Cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et n'étaient plus capables de le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « Mais c'est le Seigneur !» Dès que Simon-Pierre eut entendu que c'était le Seigneur, il mit son vêtement, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, entraînant le filet plein de poissons, car il n'était éloigné que de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un brasier, du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque, et tira à terre le filet plein de 153 gros poissons. Quoi qu'il y en ait eu autant, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit, « Venez manger. » Et aucun disciple n'osait lui demander « Qui es-tu ?» car il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur donna, ainsi que les poissons. C'était déjà la troisième fois que Jésus se manifestait à ses disciples, depuis qu'il était ressuscité d'entre les morts. Jean termine par ces mots, c'était déjà la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Il est ressuscité. La résurrection valide le christianisme. On avait vu ça il y a quelque temps, sur la résurrection. La résurrection transfère ce qui aurait pu être du domaine philosophique au domaine de l'histoire. Le verset 1 nous donne le contexte de cette troisième apparition. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade, et voici de quelle manière il se montra. 7 des disciples sont revenus à leur point de départ, à leur emploi originel. Il s'en est passé des choses depuis. Je ne sais pas si on réalise tout ce qui s'est passé. On est au chapitre 21, mais il s'est passé des tas de choses. 3 années, pas n'importe quelle année. 3 années de souvenirs. 3 années de formation, 3 années d'itinérance, 3 années de partage autour du feu, de barbecue, 3 années où certainement avec le Seigneur, ils ont éclaté de rire. À mon avis, ils devaient se raconter des blagues, et puis il y avait la formation, il y avait l'instruction, il y avait tout ça. 3 années, 3 ans, nuit et jour avec le Fils de Dieu. Je ne sais pas si vous réalisez. Moi, je vois qu'avec notre groupe Découverte qui vient de redémarrer, et en plus, sur leur demande, je suis impressionné, quoi. D'habitude, on était là, ils vont venir, ils vont pas venir. Là, c'est eux qui viennent, et s'ils viennent pas entre eux, alors ils se téléphonent. Et ça fait plus de 3 ans qu'on les connaît, hein, plus. Et il y a quelque chose de spécial qui se passe. Il y a quelque chose de spécial qui se passe entre nous. C'est presque filial. Il y a un amour qui est là. J'aimerais les voir le dimanche matin, mais il y a quelque chose qui se passe. Bref. Alors, je ne sais pas si vous imaginez, puis tout à coup, c'est l'effondrement. Tout s'arrête. Arrestation, tribunal, fouet, crucifixion, tombeau. Les espoirs messianiques tombent. Le sentiment de faillite, de reniement est présent, surtout chez Pierre. Autant s'occuper l'esprit en reprenant les activités qu'on connaît déjà, la pêche. Et Jésus se manifesta. Se manifester, on l'a déjà vu au chapitre 2, quand à Cana, en Galilée, le commencement des miracles que Jésus faisait, il manifesta sa gloire. Parce que derrière le mot manifester, c'est ça. Il vient manifester sa gloire. Il vient faire une démonstration de qui il est. Démontrer sa puissance. Et la démonstration de sa gloire qu'il va accorder à ses disciples dans ce chapitre 21, écoutez bien, c'est d'abord une démonstration de sa grâce envers Pierre, envers son disciple. Ce qui signifie que l'évangile de Jean se clôture volontairement par une démonstration de grâce envers un disciple. Et je précise volontairement, car les derniers versets du chapitre sont clairs. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pourrait contenir les livres qu'on écrirait. Le chapitre 21 se clôture par cette réhabilitation de Pierre, qu'on verra un peu plus tard. Et comme pour nous, le Seigneur a besoin, on va dire non, pas a besoin, il a besoin de nous, mais il a soin de se laisser, ou de laisser ses disciples faire l'expérience de qui il est. Faire l'expérience aussi de qui ils sont. Le Seigneur a soin de nous laisser aller jusqu'à comprendre nos incapacités, jusqu'à réaliser que sans lui, nous ne pouvons rien. En fait, il manifeste sa gloire afin d'ouvrir le cœur des disciples, de les diriger vers lui pour leur faire connaître qui il est. Car il est ressuscité, il est vivant, il est présent ce matin, il est là. Il faut qu'il soit là. S'il n'est pas là, mais qu'est-ce qu'on fait ici ? Il est là. Il faut que ce soit clair dans nos têtes. Il est présent aussi lorsqu'il y a la répétition des chants le mardi soir. Il est là lorsque l'un ou l'autre prépare sa prédication. Il est là. Il est présent lorsque le conseil d'église se réunit. Il est présent lorsque chacun de nous est au boulot, en famille, sur la route. Il est là. Ce que nous accomplissons, ce qui est bon, ce qui est juste et glorieux à ses yeux, dépend de sa présence à nos côtés parce qu'il est vivant. Parce qu'il est ressuscité. Tout simplement pour ça. Parce qu'il est vivant. L'évangile de Marc nous révèle quelque chose d'important sur notre chapitre 21 de Jean. Marc, chapitre 14, verset 28, c'est Jésus qui parle, il dit « Après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. » Marc 16, 7, c'est l'ange qui parle, il dit « Mais allez dire à ses disciples et à Pierre, qu'il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. » Il a dit, non, qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Il est là. Et ce qui nous est révélé, c'est que le Seigneur ne se révélera pas à ses disciples lorsqu'ils seront en train de prier. C'est marrant. Il ne se révèle pas quand ils sont en train de prier, il se révèle quand ils sont au boulot. Ils sont en train de bosser, quoi. Et le travail, si manuel puisse-t-il être, ne doit pas être méprisé. Vous savez, ceux qui ont des jobs à des niveaux élevés de la société, mais aussi les leaders, les pasteurs et les personnes, comme on dit, dans le ministère à plein temps, doivent faire très, très, très attention. Très attention. Les vocations terrestres, les vocations humbles, les gagne-pain, comme on dit, et pas plus. Gagne-pain et pas plus. Pas plus. Les gens honnêtes et simples peuvent être porteurs de la puissance de Dieu. Ils peuvent être porteurs de la puissance de Dieu. Il nous faut faire attention. L'orgueil intellectuel, l'orgueil tout court, peut nous empêcher de voir dans ces vocations des instruments précieux du Seigneur. L'œuvre de Dieu n'est pas l'œuvre du monde. L'œuvre de Dieu n'est pas l'œuvre du monde. Ça n'a rien à voir. Aucun rapport. Et dans le récit de la pêche miraculeuse, rapporté aussi dans Luc 5, au verset 4, c'est le Seigneur qui donne l'ordre d'avancer en eau profonde. Mais dans le chapitre 21 de Jean, ce sont les disciples qui dirigent la manœuvre jusqu'à ce que Jésus qui est ressuscité, intervienne. Le proverbe 16:7 dit que le cœur de l'homme médite sa voie, mais que c'est l'Éternel qui affermit ses pas. Comment se déroulent les manœuvres de la barque de ma vie ? Parfois c'est le Seigneur qui... Parfois le Seigneur m'inspire pour que... C'est le Seigneur. Le texte de Jean 21, au verset 3, nous dit que cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le Seigneur permet cet échec apparent pour emmener ses disciples un peu plus loin. Encore un truc bizarre qui se passe au verset 4. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais ses disciples ne savaient pas que c'était Jésus. J'emploie le mot bizarre parce que dans ma vie, aussi, il m'arrive de ne pas voir le Seigneur à l'œuvre. De ne pas le reconnaître alors qu'il est là, alors qu'il est devant mes yeux. Alors qu'il est en train de faire quelque chose, mais il m'arrive de ne pas le reconnaître. Souvent parce que je regarde à moi. Je me regarde moi et je suis insatisfait ou découragé par moi-même. Il y a de quoi être découragé, hein, par nous-mêmes. Combien de fois, comme les premiers disciples, nous peinons, nous nous fatiguons, nous nous décourageons jusqu'à ce que nous réalisions qu'il est le ressuscité qui peut faire la différence dans nos vies. Parfois, je me traîne jusqu'à ce que je réalise que lui peut faire la différence. Que lui fait la différence dans mes projets. Jusqu'à ce que je comprenne qu'il doit prendre la place qui lui revient. En obéissant à la parole de Jésus, les disciples vont jeter les filets du côté droit de la barque. Il y a un acte d'obéissance qui est là, suivi d'une pêche miraculeuse qui cette fois ne déchire pas les filets. Avec le Seigneur, il n'y a pas de perte finalement. Il n'y a pas de défaite. Tout ce qui vient de lui est bon, même si on ne le comprend pas tout de suite, dans la réalité. Je trouve ça rassurant. Verset 7, alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur !» Dès que Simon Pierre eut entendu que c'était le Seigneur, il mit son vêtement, car il était nu, et se jeta dans la mer. On n'est ni à Saint-Tropez, ni aux îles de Lérins, mais Pierre, apparemment, la pudeur de Pierre, avec les disciples sur le bateau, n'est pas un problème. Et je me demande pourquoi. Mais Jean, il nous rapporte ce truc-là. Pourquoi faire ? Des fois, tu te dis, mais il le dit bien pour une raison. Alors, soit il était en train d'écrire, et puis avec un sourire en coin, il se dit, Pierre, ah Pierre. Vous voyez ? Il est en train de raconter, quoi. Mais bon, voilà. Peut-on dire sans hérésie que la Bible est divinement humaine ? Peut-être que cette nudité est aussi rapportée par Jean de façon très symbolique, mais très précise. Peut-être qu'après avoir entendu le coq chanter, il s'est retrouvé un peu tout nu, Pierre. On va voir un peu plus loin comment va s'y prendre Jésus pour pousser Pierre à rendre des comptes. Parce que c'est ce... Nous sommes tous appelés à ça, hein, n'est-ce pas ? Nous devrons tous, un jour ou l'autre, rendre des comptes. C'est la réalité de l'Évangile. Maintenant, il faut voir de quelle manière. Suite du verset 7 du chapitre 21 de Jean, les autres disciples vinrent avec la barque, entraînant le filet plein de poissons, car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ 200 coudées. Continue jusqu'au verset 14. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un brasier, du poisson posé dessus, du pain. Et Jésus leur dit, « Apportez des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque, tira à terre le filet plein de 153 gros poissons. Je vais passer les détails sur les 153 gros poissons. Je sais qu'il y a des théories là-dessus. Je ne suis pas un théoricien, excusez-moi. Je n'ai pas envie de perdre mon temps avec 153 poissons. Il y en avait 153, c'est bien. Hein ? Et quoi qu'il en eût tant, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit, venez manger. Non, mais c'est vrai, il y a des théories là-dessus. Hein ? Et même des théories qui peuvent tenir la route, mais ça va me prendre 20 minutes. Alors, je préfère parler du Seigneur pendant 20 minutes que de parler des 153 poissons. Enfin, voilà, ça c'est mon avis. Et aucun des disciples n'osait lui demander « Qui es-tu ?» Car il savait là que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit du pain, l'ordonna, ainsi que le poisson. C'était déjà la troisième fois que Jésus se manifestait à ses disciples, depuis qu'il était ressuscité d'entre les morts. La première des choses que les disciples constatent, c'est que le Seigneur pense à eux. Il pense à eux. Dans son corps de ressuscité, il pourvoit leurs besoins. Il fait un feu, il fait les braises, il fait le barbecue. Pour que quand ils viennent, ils mangent, voilà, on met les poissons, le pain, il fait chauffer le pain. Non mais, c'est quand même fou quand on y pense. Hein. Et Jésus leur dit, venez manger. Et aucun des disciples n'osait lui demander qui es-tu. Car il savait. Et les chrétiens que nous sommes savons. Nous savons. Dieu donne des certitudes. Il donne la certitude et l'assurance dans nos cœurs. Il donne des certitudes. Dans Jean, 1 Jean, chapitre 3, il est dit, « Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. » Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Quelle que soit la situation, les circonstances contraires, nous savons que notre Seigneur est là, dans la puissance de la résurrection et qu'il habite dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Il est là. L'évangile de Jean rend réel, finalement, et vivante la présence de Jésus, ressuscité. Plein de grâce, plein de vérité, comme il le dit, comme l'établit l'Épître aux Romains, il n'y a plus de condamnation légale pour ceux qui ont accepté son sacrifice, ceux qui ont invité Jésus dans leur vie. Il n'y a plus de condamnation légale. Il n'y a plus de domination du péché pour ceux qui ont été affranchis par la vérité. Romains 8. Plus de séparation pour ceux qui le suivent et l'honore au milieu des afflictions du temps présent. C'est ce que nous dit l'épître, chapitre 8 de l'Épître aux Romains. Et Jean était en train de rehausser les joyaux de la foi que Paul expose avec tant de puissance et que nous professons. Mes amis, nous professons. C'est ce que nous croyons. En descendant de la barque, les disciples ont certainement éprouvé de la joie, peut-être comme celle des pèlerins d'Emmaüs, pareil. Et le Seigneur aussi, peut-être a certainement, d'ailleurs c'est clair, il a tressailli de joie. Comme il est dit dans l'évangile de Luc au chapitre 10, en ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, parce que tel a été ton bienveillant dessein. Tout m'a été remis par mon Père et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, ni qui est le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. » Je ne sais pas si on arrive à réaliser. Vous savez, c'est un peu comme ce qui se passe en ce moment. Tant que ça se passe à des milliers de kilomètres, on ne réalise pas. Dès que ça commence à se rapprocher de nous, là, on commence à dire « Oh là, ça existe !» Et j'imagine que ce qui s'est passé par la tête des disciples lorsqu'ils ont réalisé que Jésus était là, devant eux, physiquement, et pour eux. Pour eux. C'est pas simplement, voilà, il est là, mais il est là pour eux. Réalise aussi que le Seigneur est présent pour toi. Il est là pour toi. Parfois, on a le truc de dire, oh, mais on va à l'église pour le Seigneur. On va voir les frères et sœurs pour le Seigneur. Non, c'est lui qui est là pour toi. Il est vivant. Il est là pour moi ce matin, il est là pour toi. Il est vivant, il est ressuscité. Il est important que nous chérissions ces vérités quand même. Vu ce qui se passe actuellement, il est important de les chérir et de se les approprier. Notre Seigneur prépare de bonnes choses pour nous car il est vivant. Jésus s'approcha, prit le pain et le leur donna ainsi que le poisson. On n'a pas de poisson ce matin, on a du pain et du vin. Hein ? Et c'est pour ça que je me suis dit, tiens, arrivé là, avant de passer aux autres versets, ben, ça serait bien qu'on prenne la Sainte-Cène. Parce qu'il est là pour nous. Et le pain et le vin, c'est pour nous. Il nous a donné ces symboles pour nous. Et si tu n'es pas clair, examine-toi et viens devant le trône de la grâce et prends ce pain, prends ce vin. Parce que c'est pour toi qu'ils sont là. On a besoin de réaliser ça. Ce matin, le Seigneur est là. Il y a des millions de gens aujourd'hui qui manifestent. Des millions de gens. Ce matin, on est là. Parce qu'on a un Seigneur, parce que la vie ne s'arrête pas à la mort, parce qu'il est ressuscité. Quoi qu'il arrive, ça ne s'arrête pas. Pour nous, c'est que le début. J'arrive presque à ma 50e année, je me dis, je suis qu'au début. C'est quand même sympa. Hein, et même à 70 ou 80 ans, tu es au début encore. Tu es qu'au début. Tu n'es qu'au début de la vie. J'espère que quand j'aurai 70 et 80, on me le dira. Tu n'es qu'au début. On va prendre le pain et le vin. Qui voudrait m'aider? Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci ? » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? » Pierre lui répondit, « Mais oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu ? » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu attachais toi-même ton vêtement et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te l'attachera et te mènera où tu ne voudras pas. » Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Après avoir ainsi parlé, il lui dit, « Suis-moi. » Pierre se retourna et vit venir à leur suite le disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et qui avait dit, « Seigneur, qui est celui qui te livre ?» En le voyant, Pierre dit à Jésus, « Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. » Là-dessus, le bruit se répandit parmi les frères que ce disciple ne mourrait pas. Pourtant, Jésus ne lui avait pas dit qu'il ne mourrait pas, mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pourrait contenir les livres qu'on écrirait. Simon Pierre. Alors, le signe de cette pêche miraculeuse est glorieux, c'est vrai, mais ce livre ne pouvait pas se terminer comme ça. Il se termine sur la grâce, la réhabilitation de Pierre. Que personne ne se décourage, moi c'est ça que j'entends, que personne ne se décourage, car notre Seigneur nous attend aussi sur le rivage. Une fois, deux fois, 10 fois, 100 fois, 1000 fois. Peut-être que ce matin, tu te dis que tu as manqué des bénédictions dans ta vie. Peut-être que, je me le dis aussi. Parfois, je me dis aussi qu'à cause de mon incrédulité, parfois ma paresse, mes mauvaises priorités à cause de mes échecs, j'ai l'impression d'avoir loupé. Et le Seigneur me dit, écoute, ne te décourage pas. Je t'attends sur le rivage. Le Seigneur a prié pour Pierre, il a prié pour Pierre, afin que sa foi ne défaille pas devant les dégâts terribles produits par son assurance de lui-même, devant son arrogance, son ignorance, en fait, devant tout ce dont est capable la chair. Pierre a renié 3 fois son maître. 3 fois il l'a renié. 3 fois, le Seigneur répète une question qui va pénétrer jusqu'au plus profond de son cœur. 3 fois. C'est ça, être disciple de Jésus. C'est ça, lorsqu'on appartient à Jésus. Il ne nous lâche pas. Impossible. Même si à certains moments de nos vies, même on n'en veut plus, on l'oublie, lui ne nous oublie pas. Parfois, il va se faire entendre de façon brutale, c'est vrai. Ça va être radical. Parfois, il va se faire entendre de façon aussi apaisée, dans la douceur. Pendant des années, il va peut-être toucher du doigt quelque chose dans notre vie qu'il souhaiterait changer, voire évoluer. Parfois, il va nous pousser dans nos retranchements. Parfois, il va poser sa main sur notre épaule et nous dire tout simplement, écoute, je t'aime. Je t'aime. Et Jean a choisi d'écrire ça pour nous instruire, pour nous avertir, pour nous encourager aussi. Et comme pour nous, le Seigneur choisit parfaitement sa question, car il connaît Pierre, et il me connaît, et il te connaît. Cette question que pose Jésus à Pierre, elle est fondamentale. Le Seigneur ne nous demande pas en premier lieu de venir au culte le dimanche matin. Le Seigneur ne nous demande pas en premier lieu de chanter les cantiques, ni de partir en mission chez les Indiens. Non, le Seigneur ne nous demande pas de remplir le coffre qu'il y a au fond de la salle de billets, bien que ça serait quand même pas mal, n'est-ce pas? Le trésorier, il n'est pas là. Mais, voyez, le Seigneur ne nous demande pas ces choses-là. Il nous demande d'abord de l'aimer. Il nous demande d'abord de l'amour. De l'aimer lui. Pierre était quelqu'un qui était zélé, il avait fait ses preuves, hein. Le Seigneur désirait qu'il soit à son service. Mais par-dessus tout, Il désirait son amour venant d'un cœur de disciple. Vous savez, la vocation d'un homme et la vocation d'une femme, elle est à sa charge. On n'a pas, parfois on ne comprend pas ça, on ne pige pas que c'est la vocation, ta vocation, elle est à sa charge. C'est lui qui se charge de ta vocation dans la vie. Il connaît tous les pièges, il connaît tous les dangers. Lui seul, il connaît les ruses du diable. Nous, on en connaît quelques-unes, parce qu'on est tombé dedans la plupart du temps. Mais lui, il les connaît toutes. Les pires. Il connaît, il sait ce qu'il en est de chacun de nous. Il sait ce qu'il y a dans ton cœur, il sait ce qu'il y a dans mon cœur. Il connaît, il nous connaît parfaitement. Pas besoin qu'on lui explique quoi que ce soit sur moi, il le sait déjà. Et par sa première question à Pierre, le Seigneur revient sur le passé, et précisément sur une scène qui est décrite dans Matthieu 26, vous la connaissez. Après ma résurrection, dit Jésus, je vous précéderai en Galilée. Pierre prit la parole et lui dit, « Quand tu serais pour nous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Puis on entend l'écho, « Moi, 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 moi. » Et Jésus lui dit, « En vérité, je te le dis, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. » Et Pierre lui répondit, deuxième couche, « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai point. » Et tous les disciples, finalement, ils ont vu Pierre comme ça, ils disent, ah non, mais nous aussi, on ne te reniera pas. Ils ont fait pareil, ils ont fait exactement la même chose. Et Pierre s'est cru plus disciple que les autres disciples. Il s'est cru plus chrétien que les autres chrétiens. C'est épidermique, c'est allergisant, en tout cas chez moi. Pierre avait une tellement haute opinion de lui-même, et du coup, il jugeait ses frères, et le Seigneur devait le guérir de cela. Il devait le soigner de cela. Pierre devrait par la suite affermir ses frères et pas se comparer. C'est ça qu'il avait besoin. Il devait les affermir. Le Seigneur l'avait prévu pour ça. Tu dois affermir tes frères. Mais non. Et avant que Pierre puisse être capable d'aider les autres, il fallait d'abord que son esprit de supériorité, de suffisance, d'orgueil soit enlevé de lui. D'où la question, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci » Pierre a vraisemblablement appris la leçon, hein, ça c'est sûr, au chant du coq, il s'est déjà pris la claque, hein, ça a été clair. Mais il répond à la question de Jésus sans faire mention des copains cette fois-ci. Là, il parle que pour lui-même. « Bien sûr que je t'aime, Seigneur. » Et dans le grec, c'est vrai qu'on a ce contraste avec les mots, parce que le Seigneur lui pose la question en lui posant... En employant un mot qui veut dire « est-ce que tu m'aimes ?» comme le verbe qui est employé dans « car Dieu a tant aimé le monde », qu'il a donné. C'est le don de soi, l'agapéo. Et Pierre répond de manière sentimentale. Il dit « oui, mais oui, je t'aime, t'es mon ami, je t'apprécie, j'ai de l'affection pour toi. » Et Jésus, il repose cette question-là plusieurs fois. Mais plus de comparaison ni de comptabilité malsaine, plus de désir d'être le premier ni le sentiment de supérieur. Le Seigneur peut maintenant lui dire, prends soin de mes brebis. Il est impossible de prendre soin des autres avec un sentiment de supériorité à leur égard. C'est la pierre d'achoppement de beaucoup de responsables d'église et même de société. Vous savez, Mohamed Ali, vous connaissez Mohamed Ali, Cassius Clay, boxeur très connu. Hein. Un jour, il prenait l'avion, il y a eu des turbulences. Et ce gars-là, il aimait dire, moi je suis le plus grand, hein, je suis le plus grand des boxeurs, etc. Et puis il arrive donc la responsable de cabine qui lui dit, monsieur Cassius Clay, excusez, Mohamed Ali, vous pourriez attacher votre ceinture? Et lui répond, mais Superman n'a pas besoin de ceinture. Et elle lui répond, ouais, mais Superman n'y prend pas l'avion. L'arrogance précède la ruine. L'orgueil précède la chute. Mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. Ainsi, Jésus est en train de nous dire aussi à nous, si vous voulez être sûr d'aller à la ruine, laissez l'orgueil prendre le dessus dans vos vies. On est tous enclins à laisser l'orgueil prendre le dessus dans nos vies. Tous. C'est d'ailleurs ce que lui-même écrira dans sa première lettre, Pierre. Il dira « Faites paître le troupeau de Dieu qui est avec vous, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu. Ni pour un gain sordide, mais de bon cœur. Non en tyrannisant ceux qui vous sont confiés, mais en devenant des modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, il a bien appris la leçon, hein, vous savez, c'est ce qu'on va étudier après, hein, vous remporterez la couronne incorruptible de gloire. De même, jeunes gens, soyez soumis aux anciens. Dans vos rapports mutuels, revêtez-vous tous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève en temps voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. » Tout à coup, la lettre de Pierre prend une autre dimension au travers de ce qui lui arrive avec Jésus. Seconde question du Seigneur, mais dont la réponse de Pierre sous-entend l'affection. « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et le Seigneur de répondre « Sois le berger de mes brebis, paie mes brebis. » Pour la troisième fois, le Seigneur réitère sa question à Pierre. « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? » Et Pierre est attristé. C'est écrit, il est attristé qu'on lui pose trois fois cette même question. Jésus a atteint le fond de son cœur. C'est maintenant et pas avant que Jésus va pouvoir assurer à Pierre que son avenir sera totalement différent du passé. C'est qu'à ce moment-là, quand il a touché vraiment le fond de son cœur, qu'il va pouvoir lui dire, écoute, ton avenir va être différent de ton passé. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu attachais toi-même ton vêtement. Tu allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains, un autre te l'attachera et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Après avoir ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Vous savez, on pense tout diriger dans nos vies de chrétiens, mais bon. Parfois on le dit. On affirme que le Seigneur dirige nos vies, mais bon. Pierre l'avait aussi affirmé dans Luc 22. « Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi en prison et jusqu'à la mort. » Il l'a dit. Ben, le Seigneur a dû dire « Ah ouais, bon, ça va, ok, je retiens, je vais faire en sorte que tu puisses y aller. » Enfin, on fait des prières, il faut faire gaffe, hein. Quand même, il prend les choses en main. Sa vocation est à la charge du Seigneur, notre vocation. Puis tout à coup, c'est la dégringolade, la chute. Quelqu'un a dit qu'il fallait que la balle soit séparée du grain, vous savez. Il faut que nous apprenions que notre chair ne sert à rien. Notre Seigneur connaît nos désirs, il entend nos prières, il voit comment nous exprimons notre consécration dans l'Église et dans nos vies. Pour les uns, c'est d'une manière, pour les autres, c'est d'une autre. Il sait que même si notre esprit est bien disposé, notre chair est faible. Et comme il en a été de Pierre au début, un esprit tellement bien disposé, mieux disposé que ça, c'est pas possible. Vous ne trouvez pas qu'il avait un esprit bien disposé ? Je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. Ben, plus disposé que ça, tu n'as pas. Eh ben voilà. J'aimerais que nous retenions bien la leçon de Pierre, que nous devrons tous, je bien dis tous, apprendre un jour ou l'autre. Un jour ou l'autre, et peut-être plusieurs fois dans notre vie. Écoutez bien. Le Seigneur nous appelle et nous accepte non pas à cause de ce que nous sommes, mais à cause de ce qu'il sait que sa grâce pourra faire en nous quand nous serons entièrement à lui. C'est pas la peine de me dire « Oui, mais moi je suis entièrement à lui. » Ça, tu me le dis à moi, tu ne le dis pas au Seigneur. Personne ici dans cette salle est entièrement à lui. Vous comprenez, moi, on est à lui, oui. On est à lui, on lui appartient, on est des enfants de Dieu. Mais personne n'est entièrement à lui. Il y a toujours des choses dans nos vies qui font que nous ne sommes pas toujours entièrement à lui. C'est comme ça. Nous avons un cheminement à vivre. Nous sommes des êtres rachetés par la grâce de Dieu. Je répète, le Seigneur nous appelle et nous accepte non pas à cause de ce que nous sommes, mais à cause de ce qu'il sait que sa grâce pourra faire en nous quand nous serons entièrement à lui. Il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. C'est vrai ou pas, Romains 4. Et les dons et les vocations de Dieu sont irrévocables. Il te prend en main, il a choisi, il t'a choisi, il va t'emmener là où il doit t'emmener. C'est comme ça. Que tu le veuilles ou pas. Pour Pierre, cet évangile commence de la même manière qu'il a commencé. Suis-moi. Il a commencé comme ça, et il se finit comme ça. Suis-moi. Jésus a été fidèle. Jésus a été fidèle. Quand il lui a dit « suis-moi » la première fois, le Pierre qui était bancal, et d'ailleurs il est encore bancal, hein, quand on va voir, on va faire un topo de Pierre. Hein. Pierre n'est pas au top. Hein. Il n'est pas nickel chrome. Hein. Il y a des fois où il a dû être même repris par Paul. Et dis-moi, Pierre, ça va? Quand il y a les juifs, tu fais comme si tu étais juif. Quand tu as les païens, tu fais comme si tu étais païen. Tu te caches des uns, tu te caches. Vous voyez? Et il n'a pas été toujours très, très. Et d'ailleurs, on va voir même dans la suite du texte que même là, après avoir été attristé, il a encore ce petit élan, ce relent de supériorité et de curiosité malsaine, parce qu'il va poser la question. Il va poser la question. Pierre se retourna et vit venir à leur suite le disciple que Jésus aimait, lui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit « Seigneur, qui est celui qui te livre ?» En le voyant, Pierre dit à Jésus « Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il » À Pierre. Il en remet la couche. Il remet une couche. Que lui arrivera-t-il ? Il recommence à tomber un peu dans la comparaison. Et le Seigneur va bien sûr lui dire, ne te casse pas la tête pour lui. Regarde-toi, toi, et ne te casse pas la tête pour lui. Lui, si je veux, il sera encore vivant quand je reviens. Si je veux. Ça veut dire que s'il veut, aujourd'hui, il dessine l'un d'entre nous, il dit, ben toi, tu vas vivre jusqu'à ce que je revienne. Mais tout le monde meurt, sauf celui qui l'a désigné. Il peut le faire. Il peut le faire. Ce n'est pas un problème pour lui. Que t'importe ? Qu'est-ce que tu en as à fiche ? Quel est ton problème encore ? Encore une fois, le Seigneur nous encourage à ce que nos yeux soient fixés sur lui. Sur lui. Avant tout, sur lui. Ce que Dieu veut pour les uns et pour les autres, c'est un choix, le choix de son amour pour nous. C'est une relation personnelle avec lui. Et l'apôtre Paul nous exhorte à ce sujet, il nous dit « Nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes. » Mais en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Le Seigneur a fait l'honneur à Pierre de voir quelle allait être la fin de sa vie, quelle allait être la gloire de son ministère. Il lui a fait cet honneur-là. Mais pour Jean, c'est autre chose. Pour Jean, c'est autre chose. Et c'est autre chose, nous on le sait. Jean n'était peut-être pas au courant, mais nous on le sait. Il a écrit trois épîtres, il a écrit l'évangile qu'on vient d'étudier, l'Apocalypse, la Révélation, je veux dire, c'est quand même, c'est pas rien quoi. Hein. Mais à cause de la question de Pierre et la réponse de Jésus, le bruit courut parmi les frères que Jean ne mourrait pas. C'est une rumeur. Nous terminons ce bel évangile avec les deux derniers versets, 24 et 25, c'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Et si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pourrait contenir les livres qu'on écrirait. Jean a seulement écrit ce que Dieu a voulu qu'il écrive. Tout en gardant sa personnalité, c'est ça qui est fabuleux, ses écrits portent sa signature, ils ne ressemblent pas à ceux de Marc, ils ne ressemblent pas à ceux de Luc, ni de Matthieu. Ils portent sa signature. Mais avant tout, la signature de Dieu. C'est une belle leçon pour nos vies. Dieu se sert de nous malgré nos personnalités. Malgré ta personnalité, malgré ma personnalité, il se sert de moi. Malgré nos éducations différentes, malgré nos parcours de vie différents, malgré nos circonstances tellement différentes. C'est quand même merveilleux ce que le Seigneur fait de nous avec des gens comme nous. Juste pour terminer, quelqu'un racontait une histoire sur l'anon, vous savez, qui est monté, que Jésus a monté en entrant à Jérusalem. Et cet anon était tellement heureux d'avoir été choisi qu'il a levé bien haut la tête, et quand ils sont entrés dans la ville, voilà, il était fier. Il était fier. Et puis, il a entendu les chants de louange, il se délectait de ça. Il s'est dit, mais c'est fantastique ce qui m'arrive là. Il se régalait de marcher sur les branches, vous savez, avec ses sabots, ses petits sabots. Et puis, il savourait toute cette attention qui y était portée là, sur lui. Et puis, une semaine plus tard, l'ânon voulut se réjouir de tout ça encore. Il est revenu en trottinant, il a suivi le même parcours à l'envers, mais cette fois-ci, les gens n'ont pas eu la même attention que lui. Cette fois-ci, c'était pas pareil, c'était différent. Mais il a dit, où sont les branches de palmier? Vous savez pas qui je suis? Oh, je suis l'ânon. L'ânon qui est passé, là, il y a quelques jours. Tout le monde faisait la fête, tout le monde dansait, tout le monde criait gloire à Dieu, hosanna, dans les plus hauts des cieux. Et les gens qui ont entendu lui jetèrent plutôt des pierres, ce coup-là. Et l'ânon s'est mis à parcourir les rues de Jérusalem en disant, mais où sont donc les chants de louange à mon égard? Vous ne vous souvenez plus de moi? Vous avez oublié qui je suis? Et finalement, il a tellement gonflé les gens qu'ils l'ont chassé hors de la ville. Et le petit âne repartit chez lui, découragé, humilié. Et quand sa mère le vit, elle lui dit, tu es un petit insensé. Ne sais-tu pas que sans Jésus, tu n'es rien? C'était vrai pour Pierre, qui n'avait pas compris cette leçon-là. Et c'est souvent vrai pour nous. Parfois, on est un peu comme cet âne. On ne comprend pas que sans Jésus, on n'est rien. Et c'est ça, je crois, la vraie humilité. Je vais prier. Seigneur, merci de nous rappeler par ce dernier chapitre de ton évangile, de Jean, combien tu es glorieux, combien ta grâce elle est à notre portée. Combien tu viens nous attendre sur le rivage, chacun de nous, là où nous sommes, avec nos erreurs, nos échecs, notre orgueil. Et Seigneur, je veux te demander pardon pour moi-même, que je ne réalise pas assez combien tu es vivant, que tu es réellement ressuscité, que tu es présent dans ma vie. Quelles que soient les circonstances. Seigneur, merci de nous éduquer chacun de nous. Merci parce que tu nous aimes chacun de manière similaire. Tu prends soin de nous, qui que nous soyons. Et parfois tu vois notre orgueil dans nos cœurs, dans nos rapports. Et Seigneur, là aussi, malgré que tu en sois triste, Seigneur, tu nous aimes quand même et tu veux nous sortir de ces impasses dans lesquelles nous tombons si facilement. Seigneur, nous avons un cœur bien disposé, notre chair est faible. Tu nous connais parfaitement, tu sais de quoi nous sommes faits, tu sais ce qui nous motive. Tu connais notre amour. Seigneur, parfois notre amour pour toi et notre amour pour les frères, nous avons du mal à l'exprimer, nous le faisons même parfois de la mauvaise manière. Seigneur, donne-nous d'être plus proches de toi et plus proches les uns des autres. Parce que sans ça, Seigneur, tout ce que nous faisons, ça n'arrive à rien. Seigneur, nous ne voudrions pas que tu nous entendes nous reprocher que nous avons perdu notre premier amour. Renouvelle cet amour en nous. Redonne-nous la passion. L'enthousiasme, la joie et la paix d'être dans tes voies. Au nom de Jésus, nous te prions ce matin. Amen.